Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Archambault et j'ai le plaisir d'animer Cause Prévention, un balado sans risque de la STAS. Dans ce balado, on va à la rencontre d'expertes et d'experts, de passionnés de la SST, de personnes engagées sur le terrain qui collaborent à améliorer leur milieu de travail. Au fond, l'objectif est de causer prévention pour la promouvoir et la faire rayonner. Aujourd'hui, on va parler d'interaction, d'interrelation. Ce sont des notions qui nous sont chères à la STAS. Si vous connaissez le modèle de l'approche globale, vous savez qu'une situation de travail est le résultat de plusieurs interactions entre différentes composantes, plusieurs éléments. Pensez au temps, à l'environnement, aux pratiques organisationnelles. Dans cet épisode, c'est une interrelation entre deux catégories de risques en apparence étrangers qui va retenir notre attention. Avec notre invité, Julio Silva, je vais m'entretenir des liens qui existent entre les risques de troubles musculo-squelettiques, les TMS, et les risques psychosociaux, les RPS. Bonjour Julio, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes ergonome de formation, vous travaillez à la Direction générale de santé publique de Montréal. Pour les équipes de santé au travail, plus précisément au service de prévention des risques à la santé des travailleurs et des travailleuses. On vous a invité, bien sûr, pour votre expertise, mais aussi pour votre grande expérience du terrain. Disons que vous avez observé de près à la fois les TMS et les RPS. Justement, avant de nous lancer dans des définitions, pouvez-vous nous décrire ça ressemble à quoi, un ergonome sur le terrain?
Oui, bon, mais d'abord, bonjour, Philippe. Pour moi, c'est aussi un plaisir d'être ici. Je remercie aussi beaucoup la STAS pour cette invitation, parce que ça me permet de partager un peu mes connaissances et mon expérience, mais plutôt pour partager tout ça avec des personnes qui sont intéressées, qui sont là aussi pour... essayer d'utiliser ça dans les jours à jour pour améliorer les pratiques de prévention. Bon, si on revient un peu à votre question, en termes de... C'est quoi qui fait un ergonome sur les terrains? Exactement. OK, mais l'ergonome, c'est les professionnels de santé qui s'intéressent davantage à la personne en activité, un employé, un travailleur en activité. Et nous, d'une façon générale, quand on demande aux gens c'est quoi qui fait un ergonome, les gens vont toujours regarder comme un professionnel qui va venir pour regarder des postes qui sont à l'ordi, surtout un poste à l'ordi, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et en santé publique, on s'intéresse beaucoup à des milieux de travail où il y a beaucoup plus de problématiques reliées à la santé et à la sécurité du travail. Donc, grosso modo, on fait des analyses sur les terrains pour identifier des contraintes et trouver des solutions à atténuer la problématique ou les éliminer à la source.
Parfois, on a une image un peu stéréotypée, on s'en est déjà parlé, de l'ergonome qui est là pour ajuster les équipements, ces différentes surfaces de travail. Mais au fond, il y a une approche très globale. On va pouvoir justement en parler tout au cours de l'entretien. Mais le travail d'un ergonome concerne l'aspect physique, mais pas que de l'être humain.
Oui, c'est vraiment comme une excellente observation. Mais pourquoi? Parce que normalement, quand si je reviens un peu à mon exemple, ça c'est surtout regarder l'aspect physique de la tâche, l'aménagement qui fait en sorte que la personne va avoir un environnement beaucoup plus adapté à sa réalité. Mais en fait, quand on fait des analyses sur les terrains, on s'intéresse à trois dimensions. La partie physique ou sinon biomécanique, qui touche vraiment les troubles musculo-squelettiques, mais on s'intéresse beaucoup à la charge cognitive, sinon à la charge sociale. Quelle est la relation de la personne avec les collègues, les supérieurs, la clientèle? Sinon, quelle est la charge mentale quand je réalise une tâche? Ce n'est pas juste exécuter une tâche, mais il y a parfois des prises de décision. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en arrière, qui sont invisibles. Et les ergonomes s'intéressent beaucoup à l'invisible. Une personne qui voit la tâche en soi, il va la voir, mais il ne va pas comprendre qu'il y a des enjeux autres. Et nous, on essaie toujours d'aller chercher la différence entre les travaux prescrits et les travaux réels. quand on sort des faits, on est capable de démontrer où se trouvent les contraintes qui sont reliées au travail.
Pour revenir à la présentation initiale, je disais qu'aujourd'hui, on allait s'intéresser à des interrelations. Le travail même d'ergonome, c'est sa cible, c'est pas l'objectif, mais l'objet du travail, c'est les interrelations en différentes composantes.
Tout à fait. Et sinon, j'aime beaucoup quand vous avez mentionné la notion de l'approche globale, qui parle vraiment de voir l'ensemble des éléments qui vont faire partie des contraintes. Et c'est ça qu'on utilise aussi en ergonomie. Il y a deux volets principaux pour les ergonomes. Celui qui est beaucoup plus basé sur l'utilisation des outils pour regarder combien de gestes la personne exécute ou quoi que ce soit. Et c'est comme une approche qu'on appelle Human Factors, mais sinon, il y a l'approche qui... C'est beaucoup plus celui qui est utilisé, sinon au Québec et ou en France. C'est beaucoup plus basé sur l'analyse de l'activité. Disons, faire l'édition de la revue OP, mais parfois, il y a des contraintes qui ne sont pas vues par les gens en termes de remise des documents, faire des entrevues, chercher les sujets. Donc, ce sont des choses qui... Ça peut amener des contraintes, mais c'est plutôt la personne qui vit la situation qui la voit. Et parfois, elle essaie d'expliquer, mais ce n'est pas toujours facile de démontrer où se trouve la problématique.
Maintenant que la table est mise, plongeons dans notre sujet, qui est l'interrelation entre les TMS et les RPS. Pour avancer, j'aimerais d'abord qu'on définisse chacun de ces risques. Quand on parle de risque de TMS, de quoi parle-t-on?
D'abord, si je commence par la définition des TMS, c'est que c'est super important de vulgariser aussi toute l'information. Et d'abord, c'est pour comprendre les TMS, je pourrais dire que ce sont des affections qui sont reliées au travail, mais qui vont causer des problématiques comme des douleurs, des inconforts sur les muscles, les tendons, les ligaments, et qui sont vraiment reliés à des tâches qu'on utilise, qu'on fait dans notre travail, qui pourront engendrer des effets sur notre santé physique. Et je pourrais vous donner quelques exemples. Les plus connus, c'est quand on a des problèmes au dos, des maux de dos, des problèmes reliés aux épaules. Ce sont les parties les plus touchées, c'est normalement les dos, et ça coûte cher pour une personne qui se blesse, pas juste en termes des coups, mais en termes de... d'absentéisme, rester seul à la maison, se culpabiliser pour une chose qu'on n'est même pas coupable. C'est toutes les conditions de travail qui vont générer ça. Donc, ça, c'est la définition générale des TMS.
Je crois qu'année après année, c'est le risque qui prédomine en termes de statistiques. Est-ce que je me trompe?
Non. D'ailleurs, je trouve que la préoccupation de la STAS de cibler sur ces risques, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la première cause de réclamations auprès de la CNU, SST, mais ce n'est pas tout le monde qui se plaint des problèmes de TMS. On vit encore tout un processus qui est en changement. Il y a même des milieux qui vont traiter les personnes qui ont des TMS comme des personnes qui chialent, qui vont avoir des problématiques qui ne sont pas réelles, mais en fait, il y a une personne sur quatre. Au niveau de l'enquête québécoise de la santé publique ou populationnelle, pardon, EQSP, j'oublie un peu l'EP, mais EQSP, la santé de la population, bon, finalement, ça m'y revient en tête. Et ça démontre qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, mais qui ne vont pas rapporter la problématique des TMS. Donc, ça devient vraiment une grosse problématique de santé publique. Donc, il y a beaucoup de données qui sont vraiment cachés, qui ne démontrent même pas la réalité du terrain. Mais malgré tout ça, c'est encore la première cause d'absence.
J'imagine quand la blessure est progressive dans le temps, peut-être qu'il y a moins de déclarations quand la blessure est soudaine. Est-ce que c'est lié, le mode d'apparition des TMS? Ou...
Oui. En fait, il y a comme trois modalités. Une, c'est comme soudainement. On pourrait avoir déjà, disons, quelqu'un qui travaille debout toute la journée, il est déjà exposé à un facteur de risque, c'est la position statique longue durée. Donc, il y a toute comme une fatigue qui commence à s'installer au niveau des jambes, au bas du dos. Et on a une tendance de prendre ça comme moins important, mais c'est quand même un inconfort, une douleur qui apparaît. Mais si jamais la personne va juste chercher un crayon qui tombe par terre, elle va chercher, oups, ça arrive quelque chose. Est-ce que c'était les crayons ou c'était toute l'accumulation qui est venue avant? Ouais. Sinon, par des gestes qui se répètent. Et il faut aussi tenir compte que les muscles ne sont pas faits pour résister si longtemps. Il y a des tâches qu'on pourrait privilégier, d'autres mécanismes pour réaliser la tâche, qui juste répéter un geste. Et c'est pour ça que les ergonomes s'intéressent beaucoup au fait d'analyser la tâche et vérifier s'il y a une possibilité de mettre une valeur ajoutée pour que la personne puisse réaliser la tâche sans être exposée à un geste qui, à la longue, va déjà, qu'on est conscient qu'il va causer une blessure.
Nous allons revenir sur les TMS, mais maintenant que cette portion-là de la relation est campée, maintenant, qu'est-ce qu'il y en est pour les RPS? Un peu la même chose, brève définition et quelques exemples, et après, on explorera la relation comme telle.
Parfait. Juste un petit détail que je n'ai pas mentionné. Quand on regarde une tâche, en termes de TMS, on s'intéresse aussi à des modulateurs. Les modulateurs, ce sont des éléments qui vont aider à identifier quelle est l'amplitude du risque ou l'ampleur du risque. En termes de durée, intensité et fréquence, ce qu'on appelle DIF. Et s'il y a une combinaison de facteurs de risque, comme les efforts physiques, les travaux en répétition, sinon les postures contraignantes, ensemble, il y a plus de chances de développer ça. Quand on fait comme une petite migration maintenant pour les risques psychosociaux, OK? D'abord, c'est super important, même avant que je puisse donner la définition, j'en profite l'occasion pour démystifier certaines choses. Quand on parle des risques psychosociaux, on ne parle pas de faire la psychologie au travail. Ça, c'est la première chose, le premier message que je vous laisse. Ce n'est pas vraiment ça. C'est plutôt de comprendre que les risques psychosociaux sont des risques qui sont reliés à l'organisation du travail, qui sont reliés aux pratiques de gestion, aux conditions d'emploi et finalement aux relations sociales. Donc, si je suis, disons, exposé à tous ces facteurs de risque, il y a plus de chances que je puisse engendrer des effets néfastes sur ma santé physique et psychologique. Donc, la notion de psychologique, ça vient sous les effets, sous la détresse. Mais si l'organisation de travail est bien faite, il y a moins de chances que je puisse développer tous ces aspects. Donc, les pratiques de gestion sont toujours interliées au fait de prévenir l'apparition des problématiques de la santé physique et psychologique. Et plus on est exposé à des facteurs de risque des TMS et des RPS, donc là, on a un paquet d'éléments qui pourraient vraiment engendrer tous ces effets négatifs sur la santé.
Avant d'aller sur cette relation, on pourrait parler des facteurs psychosociaux du travail et dire que parfois, c'est des facteurs de protection lorsqu'il y a des bonnes pratiques, lorsqu'il y a des bonnes conditions. Mais on va parler des RPS. Parce que je trouve qu'on parle souvent en prévention des RPS, mais on oublie que finalement, la notion est neutre au départ. C'est des facteurs. Le facteur peut être facteur de protection ou facteur de risque. À ce moment-là, quand on parle de facteur de risque, on va prendre le raccourci, on va dire que ce sont des risques. Est-ce que j'ai bien cerné?
Oui. Et je trouve ça vraiment excellent que tu soulèves cet aspect. Parce que parfois, quand on voit des facteurs de risque psychosociaux, je viens de donner la définition, mais par la suite, on va sortir des indicateurs. Les indicateurs, en soi, ne sont pas juste des effets néfastes, mais il y a tous les aspects en termes des facteurs de protection. Quand on parle des indicateurs des RPS, on parle de la charge de travail, on parle de la reconnaissance, on parle du soutien du supérieur et des collègues, on parle de la communication et l'information, sinon on parle aussi de l'autonomie décisionnelle. Et tous ces éléments ensemble, s'ils sont bien gérés, s'il y a une bonne gestion de tous ces éléments, ils vont devenir vraiment comme des facteurs de protection. Dès qu'on commence à voir des manquements en termes de soutien, en termes de reconnaissance, en termes de surcharge, qui s'est connu comme l'élément principal en termes de risques psychosociaux au travail, on va avoir plus de chances d'avoir tous ces effets néfastes. Donc, il faut miser sur les bonnes pratiques Et c'est quand même un gros changement pour plusieurs sociétés.
En tant qu'ergonome, est-ce que ça fait longtemps que vous les considérez, ces risques-là? Parce que j'ai l'impression que oui, d'après la définition très globale donnée d'entrée de jeu. Mais en termes de prévention, je n'ai pas l'impression que cette nomenclature-là est si vieille, entre guillemets, date de si longtemps. On sait que ça a été formalisé, entre autres, par l'INSPQ autour de 2016, mais en tant qu'ergonome, je reviens à ma question, est-ce que ça fait longtemps que ces risques-là sont dans la ligne de mire ou pris en considération dans le travail d'analyse?
Oui, en fait, c'est qu'au niveau de l'ergonomie, dans notre formation, on s'intéresse beaucoup à les trois dimensions. Mais disons que quand on commence, je prends l'exemple de la santé au travail dans la direction de santé publique, dans les équipes de santé au travail, dans les années 2010, je dirais qu'il y avait une intention de la table de concertation nationale en santé au travail de prioriser les TMS, parce que c'était comme on mentionnait tantôt, c'est une grosse problématique qui causait beaucoup d'absence et beaucoup de réclamations. Mais les ergonomes en soi sont formés pour identifier les trois dimensions. Donc, quand je regarde quelqu'un qui exécute une tâche pour aller chercher une boîte qui va palettiser et la palette est au sol, moi, je ne m'intéresse pas juste à la dimension physique. Je vois déjà qu'il y a comme une distance entre la prise et les dépôts. La prise en haut, les dépôts en bas, qui va déjà causer comme un effort important, des postures contraignantes, la répétition. Mais si je m'intéresse à tous ces autres éléments, comme au niveau de l'organisation, c'est quoi qui fait en sorte que la personne n'a pas une table élévatrice qui pourrait faciliter la prise des dépôts et ne pas fausser son dos en faisant les déplacements? Donc, nous, on s'intéresse à tous ces éléments. C'est juste que, avec la loi et avec l'INSPQ, on commence à changer un peu les langages qui soient un plus interdisciplinaires et pas juste comme un agresseur d'intérêt de l'ergonomie. Faut que tous les milieux de travail soient conscients qu'ils sont en risque présent et pas juste les ergonomes dans les analyses pour sortir du cadre des TMS et élargir l'analyse pour que ça soit... Parce que c'est, quand on parle de RPS, parfois les gens vont se dire, mais Julio, c'est invisible, c'est difficile à identifier. Mais ces facteurs de risque sont identifiables, mesurables et modifiables.
Et ça me fait penser, tout à l'heure, vous avez dit, pour les TMS, il y a même, on se dit, un trouble musculo-squelettique, ça devrait être évident, il devrait avoir à chaque fois une déclaration. Et là, je pense, s'il y a une sous-déclaration du côté des TMS, on doit avoir un peu la même chose du côté des RPS. Est-ce qu'il y a ce phénomène-là analogue? Est-ce qu'on est capable de comptabiliser? Ou...
D'abord, pour les TMS, oui, c'est déjà parfois difficile de comptabiliser ou d'avoir toutes les statistiques réelles du terrain. C'est pour ça qu'il y a une personne sur quatre qui vont déclarer des problématiques sur les TMS. En termes de RPS, c'est tout nouveau. Il y a encore beaucoup de méconnaissances dans le milieu de travail. D'ailleurs, on met beaucoup d'emphase à chaque visite qu'on fait. On propose déjà une séance de sensibilisation pour expliquer c'est quoi les RPS, pourquoi il faut s'intéresser, quels sont les effets sur la santé physique et sinon sur les aspects économiques de l'établissement. Si je suis confronté à une situation difficile dans mon travail, il ne faut pas que je puisse être gêné de lever la main et aller voir mon supérieur et mentionner il y a quelque chose qui ça va un peu mal. Après deux semaines, je suis vraiment en sous-charge. Je ne suis pas capable de livrer toute la marchandise. Est-ce qu'on peut réviser un peu ma charge de travail pendant une période X de temps pour que je puisse éviter de tomber dans une situation critique?
Maintenant, vous avez bien défini TMS, ensuite RPS, avec toute la complexité ici. On n'a pas la prétention de tout couvrir ce sujet-là qui est très, très riche, mais de donner des bonnes bases. Maintenant qu'on a ces bonnes bases-là, j'aimerais qu'on pense ensemble à cette relation-là. Il y a quelques années, ce sont mes collègues qui m'ont fait découvrir justement l'interrelation entre TMS et RPS. Et moi, ça m'a frappé puisqu'il y a quand même parfois un certain... un certain réflexe en SST de classer par risque, de classer les choses dans des petites boîtes et de se spécialiser en fonction d'un risque. Et je trouvais que ça venait éclater un peu cette vision-là très... je ne sais pas comment la qualifier, mais chaque chose a sa place, comme le corps, l'esprit. Et là, soudainement, ben pas soudainement, parce que je comprends bien, dans le travail d'ergonome, c'était déjà porté à l'attention, mais on met l'accent sur l'interrelation de deux types de risques. Alors, j'aimerais... Comment ça fonctionne, cette relation-là? Est-ce que ça fonctionne dans les deux sens, les TMS qui nourrissent les RPS qui nourrissent les TMS? Donc, peut-être juste expliquer cette relation-là et bien évidemment, quelques exemples.
Je vais essayer de répondre, répondre à cette question dans quatre façons différentes.
C'est une bonne question, oui.
Non, mais c'est quand même intéressant comme question. La première des choses, c'est que quand on est confronté à une situation qui demande des efforts physiques ou même une charge mentale importante, comme une charge cognitive importante pour la prise de décision, pour comment organiser mon travail, il y a quand même un stress qui va débarquer et parfois les gens ne les voient pas. Okay? Ça pourrait être quelqu'un qui travaille au bureau, qui fait un rapport super important, et c'est une personne ressource dans l'établissement. Il y a plusieurs personnes qui vont venir les voir pour poser des questions, mais à chaque fois qu'il y a une interruption, même s'il y a beaucoup de volonté d'aider les autres, ça cause une charge mentale et ça pourrait perturber tout son travail. Donc, parfois, c'est difficile à gérer tout ça. Et si ça commence à devenir comme une contrainte de temps pour livrer la marchandise, les rapports, ça pourrait devenir comme une détresse qui va embarquer sur la personne et par la suite, elle commence à voir une tension. Elle voit le temps passer, elle n'est pas capable de livrer la marchandise et ça commence à venir avec une détresse. Si jamais il y a un petit problème qui arrive aussi à la maison, il ne faut pas oublier que les cerveaux, c'est toujours les mêmes, celui du travail, celui de la maison. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir du soutien pour atténuer la charge émotionnelle avec les collègues, avec les supérieurs. Donc, si cette détresse embarque, il y a plus de chances que cette personne puisse développer des contraintes, des douleurs au bas du dos, aux épaules, surtout les parties du corps qui sont déjà un peu affaiblies, qui ont déjà une petite historique. Et pourquoi? Parce que toute une tension, je ne vais pas parler de la physiologie, mais plus on a la tension, mais il y a des hormones qui vont embarquer, qui vont causer la vasoconstriction des veines et des artères. Donc, ça va comme créer toute une tension et les parties du corps qui vont être les plus exposées sont les premières qui on va voir la douleur, OK? Donc ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie, c'est au niveau des statistiques et comment séparer les choses. C'est super important de comprendre qu'à date, on n'a pas autant de possibilités d'augmenter les situations des RPS sans passer par les TMS parce que c'est ces effets de la physiologie qui vont démontrer qu'on a une partie du corps. Donc, ça va être classé plutôt comme des TMS. Parfois, on ne connaît pas la raison. Mais quand on parle des statistiques des RPS, il faut tenir compte qu'on utilise beaucoup l'approche l'INSPQ, qui est basée sur l'analyse, sur les composants clés de l'activité de travail. Comme je disais, la surcharge, je ne sais pas si la réponse elle devient compliquée, mais l'autonomie décisionnelle, les soutiens, la communication, l'information, accès à tout ça.
Vous avez donné un exemple de RPS à TMS, donc si on peut dire de l'esprit au corps, est-ce qu'on peut avoir l'inverse, donc des TMS, avoir que ça crée justement, une surcharge, une détresse psychologique.
Ouais.
Puis là, j'en reviens à la question, est-ce bidirectionnel, cette relation?
Oui, tout à fait. Si on prend comme exemple, je pourrais même utiliser un exemple de quelqu'un qui travaille dans les santé et services sociaux, quelqu'un qui travaille dans une cuisine, qui doit préparer plusieurs repas dans un CHSLD. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, cette personne, il y a comme des contraintes en termes de temps, l'horaire qu'elle rentre, est-ce que son équipe est complète? Est-ce que par la suite, elle doit préparer des repas selon les menus? Mais il faut toujours respecter les allergies. Donc, il y a beaucoup de décisions qui sont prises par la personne qui est en charge. Mais en même temps, Si, admettons, elle va travailler avec des personnes, il y a quelques, quelques employés qui ne sont pas rentrés travailler, il y a, disons, 5 sur 7. Donc, il y aura comme toute une augmentation de la charge. Et si la personne a déjà comme une charge importante de travail qui va être ajoutée avec les déplacements des aliments, des sacs, avec la contrainte des temps, il faut livrer la marchandise. Il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer, qui vont faire en sorte qu'il y aura plus de chances que les TMS vont déclencher une problématique ou vice-versa. Parce que la personne pourrait juste lever la main et dire, écoutez, ça marche pas, c'est trop intense, c'est trop serré en termes de temps, j'ai pas les moyens, j'ai pas les équipements nécessaires pour réaliser la tâche. Et ça pourrait développer comme une source qui bidirectionnelle en termes de RPS ou TMS. Parce que les contraintes sont là et c'est la réalité du terrain qui va démontrer ça.
À écouter les réponses, j'ai toujours l'impression, et depuis peut-être toujours précisément, si on prend l'idée même d'une charge. La charge, on la pense comme une charge physique, disons quelque chose à soulever. Mais cette charge-là a toujours une portion psychologique ou invisible. Et ben, je dis toujours, peut-être que je fais fausse route, mais c'est comme si dans l'aspect physique même du travail, il y avait dans cette notion de charge, à la fois charge physique et psychologique.
Notre organisme, il y a une façon de nous envoyer un message que ça va moins bien. C'est que quand on commence à avoir trop de stress, beaucoup de stress dans notre travail, on commence déjà à ressentir des inconforts sur plusieurs parties du corps. Et parfois, ce n'est pas juste l'effet de se lever des boîtes ou manipuler des objets manipuler des patients ou sinon juste déplacer des patients qui va causer ça. C'est toutes les stress qui viennent avec la situation. Les temps, la contrainte des temps, c'est elle qui joue un rôle super important. D'ailleurs, dans tous les établissements, quand on pose la question, c'est quoi pour vous les RPS? Et les gens vont soulever dans un premier temps la surcharge, la charge de travail importante. Mais les effets sont sur les côtés physiques. Et la partie invisible, c'est celle que les gens parfois ont peur de partager parce qu'ils ne se sentent pas super bien accueillis. D'ailleurs, j'ai soulevé un super bon coup du ministère de Santé. C'est d'avoir créé la communauté des veilleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est comme une communauté qui met beaucoup de personnes dans les établissements pour être là à l'écoute. Donc, si moi, je suis veilleur dans mon équipe, si quelqu'un ressent comme une problématique qui arrive à la maison, au même bureau, cette personne vient me voir, partager un peu ses défis. Et par la suite, on a l'impression que la personne sort du bureau un peu plus soulagée juste par le fait de s'y faire écouter.
On a bien campé le type de relation, mais je me demandais maintenant, en tant qu'ergonome ou même en termes de prévention, son angle de prévention, c'est quoi le bénéfice ou l'avantage de prendre en charge, de considérer ces deux types de risques-là conjointement dans un travail d'analyse, dans un travail de... Je pense aux organisations, je pense aux établissements, de faire cette démarche-là, mais conjointe et non pas identification des TMS, identification des RPS.
J'adore ta question, Philippe, et ça me donne vraiment la possibilité d'expliquer qu'il faut s'intéresser davantage à l'organisation du travail. Il faut s'intéresser beaucoup à tout ce que les gens parlent sur le terrain. Faut encourager les gens à soulever... pas vraiment des problématiques, mais les enjeux. Pourquoi vous avez... quels sont vos enjeux? Parce que si une personne qui travaille avec beaucoup d'enjeux, il ne partage pas les problématiques, à un moment donné, il va développer des TMS qui sont empirés par les risques psychosociaux, par le fait de ne pas se sentir écouté. Donc, c'est plutôt d'entendre les gens, parce qu'il y a toujours la différence entre le travail... prescrit, les travaux réels. Les travaux prescrits, c'est tout qui vient avec les postes, toute la description des postes, mais il y a toute la tâche réelle qui va vraiment au-delà de tout ça. Mais les gens qui vivent des défis, parfois ne se sentent pas écoutés et à la base, on parle de l'organisation du travail. Donc, si on est capable d'organiser une tâche, Pour éviter, pour éliminer les risques à la source, il y a moins de chances qu'on puisse même développer des TMS.
Pour en revenir à la question qui était l'avantage, le bénéfice, si je comprends bien, d'aborder RPS et TMS conjointement, c'est aussi, disons, de mieux identifier la vraie source peut-être du problème ou de la contrainte. Parce que peut-être que sous le TMS, c'est ça que vous avez évoqué tout à l'heure, sous un problème qui a l'air complètement musculo-squelettique, en fait, l'origine ou la source même est beaucoup plus du côté des RPS.
Je vous donne un autre exemple aussi pour faciliter la compréhension. Et récemment, j'ai fait une analyse dans un établissement qui faisait beaucoup des pièces d'avion pour l'armée américaine et même canadienne. Donc, il y avait beaucoup de contraintes en termes de documenter les postes. Donc, on ne pouvait pas prendre des images et les analyser sur le bureau. Donc, on devait faire l'analyse sur place. Après quelques minutes, disons 30 minutes ou plus, on avait remarqué que la madame faisait toujours la même tâche. Mais sa tâche était de mettre un scellant sur des pièces. Mais c'était une tâche il y avait beaucoup de précision. Mais dans une analyse préliminaire, j'avais remarqué que la hauteur de la table et la chaise n'étaient pas super adaptées à la madame. Mais elle parlait toujours et en même temps à deux personnes qui étaient à côté d'elle. En rapprochant et en commençant à poser des questions à la madame, j'ai remarqué déjà les facteurs de risque, les postures contraignantes, la position de sa tête complètement penchée. J'ai remarqué que l'éclairage n'était pas si fort pour qu'elle puisse appliquer là. Mais je lui ai demandé, quand vous faites ce travail en soi, est-ce que surtout un jeudi soir, un vendredi, est-ce que vous ressentez des douleurs au corps, au cou, au bas du dos? Et la madame, oui, je dois rencontrer quasiment chaque 15 jours mon chiro pour être capable de me sortir de ça. Mais en même temps que j'applique l'APS, je dois penser à l'amélioration continue, de bien faire le travail. Il y avait deux personnes qui étaient en formation en tout temps, donc ce n'est pas juste son travail. Il y avait le travail de deux autres personnes. Donc sa charge mentale était tellement intense qu'après deux minutes de conversation, la madame commence à pleurer et en me disant, une chose que vous avez remarqué, que à quel point c'est difficile mon travail, et quand on a présenté les rapports plus en détail, elle disait, mais merci d'être là à l'écoute, parce que j'essaie d'expliquer aux gens que ce n'est pas facile, et les gens ne comprenaient pas, et juste pour finir avec cet exemple, c'est que la madame formait des personnes pour un cycle de un an de formation. Donc, si une personne part, pour la madame, ça serait comme la détresse, parce que c'est comme recommencer le processus, jamais arrêter la formation.
Ouais. C'est un exemple très parlant et on évoque le travail d'analyse et ça me conduit à ma prochaine question qui était est-ce que ce sont les mêmes outils pour l'identification des risques de TMS ou de RPS? Est-ce que la démarche est commune? Est-ce qu'on procède, TMS, vous l'avez évoqué, par l'observation, mais j'imagine que justement pour aller chercher la part d'invisible des RPS, on a d'autres outils en tant qu'ergonome ou en tant que personne qui veut identifier ces risques-là. Quelle est la méthode ou les outils?
Dans les passés, on a développé avec un projet au niveau provincial, avec les réseaux de santé, un projet qu'on appelle TMS-RPS. Si ma mémoire est bonne, elle date de 2018-2019, où on voulait faire des observations pour toute la partie TMS et aller chercher des validations en termes de RPS avec des entretiens. Donc, si je suis capable d'identifier que la tâche cumulée en termes de soulèvement, ça dépasse 6 tonnes, ça dépasse même une norme ISO 11228, c'est juste la norme qui parle de soulèvement des charges, mais je voulais aussi ajouter les côtés organisationnels. Donc, je posais la question à la personne. Quand vous faites cette tâche, est-ce que vous avez l'impression que vous avez le temps nécessaire pour bien réaliser la maintenance? Est-ce que vous avez le temps suffisant pour... Mais on a développé un aide-mémoire qui est disponible et on pourrait après diffuser auprès de la STAS. C'est un document public, c'est le cartable du projet TMS-RPS, qui a un aide-mémoire pour chaque indicateur des RPS. On a des questions en termes de surcharge, en termes de manque de reconnaissance, un manque de soutien. Donc, on pourrait utiliser l'aide-mémoire que c'est quelque chose qui s'est basé sur l'analyse sur le terrain. Et ça pourrait être bien pratique. Parfois, ce n'est pas si simple de faire un rapport avec ça, mais avec la pratique, les conseillers en santé et sécurité ou les personnes qui sont dans les comités SST seront en mesure d'améliorer la capacité d'augmenter tout ça.
Vous avez évoqué le rapport, donc le document qui est produit après l'analyse dans le milieu, dans une organisation. Et je me demandais comment, ensuite, quand ce travail-là est fait, quand le rapport est déposé, comment une équipe de travail peut s'approprier ce rapport-là dans sa volonté d'améliorer, évidemment, le milieu?
Dans un premier temps, on essaie toujours d'identifier quelles sont les contraintes. Mmh. On soulève les contraintes et dans une deuxième partie, on va regarder quelles sont les pistes et solutions. Parfois, les entreprises n'ont pas de choix, sinon faire appel à un consultant en ergonomie ou sinon même au réseau de santé pour qu'on puisse faire appel aux ergonomes qui vont venir pour valider certaines choses. Mais idéalement, il faut faire une identification du risque, sortir les facteurs de risque des TMS, ensuite des RPS, que les gens parfois vont soulever qu'ils ne sont pas reconnus quand ils donnent des propositions qui ne sont pas prises en considération. Donc, on pourrait sortir une liste des choses qui pourront aider à ça. D'ailleurs, ça me permet aussi de parler des fiches synthèse, pardon, fiches résumées, parce qu'on a changé les noms. C'est des fiches résumées qui ont été créées par l'équipe de santé au travail de Montréal et qui est disponible aussi sur l'Internet, que vous pouvez regarder pour chaque indicateur d'RPS. Il y a un document qui est pour les travailleurs et pour les employeurs qui pourront les aider à sortir par la suite un plan d'action pour chaque élément qui est identifié, de sortir des recommandations, disons en termes de surcharge. Et il y a une liste des recommandations qu'on donne et c'est sûr et certain qu'il y aura des recommandations qui vont bien combler les besoins des établissements. Mais idéalement, il faut identifier, créer un plan d'action. Et avec l'approche LASTAS, ça me fait penser à Radia, qui, quand j'ai suivi sa formation, elle disait qu'il y avait un outil qu'on pourrait aller chercher les parties prenantes. Donc, il faut chercher l'implication du syndicat, il faut chercher l'implication du comité SST, la haute direction, des représentants des employés, pour que tout le monde soit en concertation pour aller chercher la bonne formation. Une chose aussi que j'aimerais aviser, c'est qu'avec tous les changements de la loi, c'est à partir du 6 octobre 2025 que les milieux de travail auront l'obligation d'identifier les risques des RPS aussi, inclure dans les programmes de prévention, si on parle d'un établissement de 20 travailleurs et plus, et des 19 et moins, c'est plutôt avoir un plan d'action. Mais les réseaux de santé avec les ASP, avec l'INSPQ, l'IRISST, ont travaillé très fort pour créer des programmes de santé. Et à date, il y en a 6 qui ont été produits. Un programme de santé pour les risques biomécaniques, un programme de santé pour les risques psychosociaux, un pour amiante, la silice, bruit et produits chimiques. Donc, si les milieux veulent chercher de la bonne formation, les programmes sont aussi disponibles sur les sites de la CNESST, qui pourront servir de référence. C'est tout nouveau. Il y a encore beaucoup de défis, beaucoup de lectures, mais il faut chercher les ASP, les réseaux de santé pour chercher de l'aide, pour décortiquer toute l'information.
Merci. Notre entretien tire déjà à sa fin. Et avant qu'on se quitte, j'aimerais te demander des conseils pour la route. Donc, la STAS est paritaire. Donc, un conseil plus pour les travailleuses et les travailleurs, puis un conseil plus pour les gestionnaires. Un conseil, évidemment, pour, disons, la prise en charge des TMS et les RPS, mais qui se voudrait comme une proposition d'action simple, quelque chose qui peut être mis de l'avant assez facilement, mais ou sinon, ça peut être quelque chose de plus complexe, mais je te laisse.
Je vais en profiter de cette occasion pour soulever quelques aspects. Le premier de tous les aspects, c'est l'importance de considérer qu'avec les changements de la loi, on ne va pas juste identifier les RPS pour que ça soit comme un checklist. On vient d'identifier, on les met dans les programmes de prévention et on les met dans les tiroirs. Non, il faut vraiment s'intéresser pour atténuer la problématique parce que tantôt je disais que l'ETMS, c'est la première cause d'absence ou de réclamation, mais les RPS, la première cause d'absence longue durée. Donc, si on perd des joueurs vraiment importants dans nos équipes, ce n'est pas bon. Il faut vraiment travailler, mettre des efforts pour garder les personnels en santé. Donc, ce n'est pas juste une obligation qui tient aussi du côté des employeurs. Il faut toujours soulever aussi l'importance que tout le monde soit bien engagé dans les processus. Donc, ça prend une grosse participation de la part des gens. Mais si les gens veulent participer, il faut donner la voix aux personnes pour qu'ils puissent participer. Donc, c'est comme une responsabilité partagée. Et ça, c'est les côtés que j'aime le plus. Il faut aussi briser les silences. C'est un gros changement pour la culture québécoise, l'inclusion des RPS et pour plusieurs sociétés. Donc, si quelqu'un lève la main pour dire que ça va mal, il ne faut pas juger la personne. Il faut considérer qu'on est exposé à toutes sortes de contraintes. Ça fait partie de la vie, mais on cherche une amélioration pour qu'on soit mieux encadré. Et tout ça, tous ces efforts avec la collaboration des ASP, du réseau de santé, pour qu'on puisse travailler en termes de prévention, vulgariser l'information, avoir plus de sciences d'information, décortiquer toute l'information et être au service de la santé des gens, parce que nous, on cherche des milieux de travail sains.
Merci, Julio. Merci pour ton temps. Merci pour toutes ces connaissances, puis pour cette vulgarisation-là. Ça paraît que vous êtes passionné par le sujet. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris de choses aujourd'hui. Et j'espère que nos chemins se recroiseront, assurément. Et voilà qui conclut cet épisode de Cause Prévention, un balado sans risque de la STAS. Merci pour votre écoute. On vous invite à consulter les documents en référence qui apparaissent dans la description de cet épisode. Si vous avez aimé ce balado, partagez-le et laissez-nous un commentaire. On se retrouve bientôt avec un nouvel épisode pour Causer Prévention.